Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Alain Maurice, bonjour.
Bonjour.
Et de Jalila Jalila, bonjour.
Bonjour.
Alors tous deux, vous êtes ici pour présenter à nos auditeurs la clé des soins, un terme utilisé en médecine chinoise.
Oui, c'est plutôt un cabinet que nous sommes en train d'installer et que nous avons voulu nommer la clé des soins parce que c'est vrai que dans ce domaine de la santé, il y a beaucoup de thérapies, de médecine et la médecine chinoise a ceci de particulier de donner des clés de lecture des dysfonctionnements énergétiques.
Et donc, vous êtes résident dans le Diwa depuis quelque temps, mais vous-même, Alain, vous êtes originaire du Diwa.
Oui, originaire du Diwa, né à Dim, et puis cette volonté, en prenant un peu de l'âge, de revenir aux sources, au contact avec la nature, et en lien, évidemment, avec ce que l'on a envisagé avec Jalila de réaliser ici.
Pour cette pratique de la médecine chinoise, êtes-vous allé en Chine ?
Non, on n'est pas allé en Chine. Il faut dire que cette pratique traditionnelle, classique de la médecine chinoise a été plutôt boycottée au temps de la révolution chinoise. Et donc, c'est perdu de vue, bizarrement, en Chine. Et revient aujourd'hui dans un certain nombre d'hôpitaux et revient également avec des partenariats qui peuvent être faits avec des structures françaises, des hôpitaux français également ou européens. Et donc du coup, curieusement, cette tradition a survécu avec des personnes qui n'étaient pas forcément d'origine chinoise et qui, aux États-Unis, en Europe, ailleurs, ont voulu faire perdurer cette médecine qui est ancestrale, qui a près de 3000 ans aujourd'hui et qui apporte des bienfaits sur le plan de la santé avec avec d'autres techniques que ce que l'on peut connaître aujourd'hui dans le monde occidental.
En quelque sorte, c'est la diaspora chinoise qui a entretenu cette tradition médicale ?
Oui, en quelque sorte, oui, parce que Mao Tse-tung avait interdit à un moment donné la pratique de cette médecine, parce que le lien qu'il pouvait y avoir entre cette médecine et peut-être source d'opposition à l'époque faisait qu'il y avait une restriction. Et donc du coup, cette médecine qui s'est beaucoup développée dans les temps ancestraux, dans les familles, a été plutôt bannie, interdite, mais revient depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, en force en Chine aussi.
Le principe de la médecine chinoise est lequel, si on peut l'aborder synthétiquement ?
Alors d'abord, comme je l'ai évoqué, cette médecine est ancestrale. Elle se réfère sur des ouvrages dont le premier de Yi Jing est paru 2500 ans avant l'ère chrétienne, vous voyez, et puis après le Neijing 300 ans avant l'ère chrétienne. Et donc c'est le principe de l'équilibre entre l'énergie yin et l'énergie yang. C'est un principe de médecine, une théorie qui a des fondements quand même dans des philosophies comme le taoïsme, le bouddhisme, le confucianisme, et aujourd'hui qui est parti à l'époque de l'observation de la nature, de l'écosystème naturel, pour d'une certaine façon le dupliquer, ou en tout cas regarder comment on pouvait, à partir de l'écosystème naturel, décrire un écosystème humain. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui il est dit que finalement la nature est un modèle à suivre, à ne pas dominer. Et par analogie, la médecine traditionnelle chinoise est une médecine naturaliste, énergétique, préventive d'abord, mais où chaque individu ressemble à un paysage. On est tous particuliers. Et donc lorsqu'on vient nous voir, eh bien on s'intéresse d'abord aux malades, aux patients, avant de s'intéresser à ces dysfonctionnements, à ces déséquilibres énergétiques. Donc, c'est pour ça qu'on dit que tout ce qui se passe dans le corps, finalement, peut se passer à l'extérieur. Et à partir de cette analogie, eh bien, est née une véritable médecine, qui est une médecine complète, avec sa physiologie, c'est-à-dire l'étude du fonctionnement du corps humain, mais pas une étude comme on l'entend aujourd'hui sur le plan occidental, où l'anatomie a une place importante. Ici, en Chine, c'est plutôt l'observation, la physiologie, le fonctionnement du corps, des organes entre eux, dans une observation et un rapprochement dans ce qui est dans la nature. Donc une véritable physiologie, je disais. Une étiologie, c'est-à-dire l'étude des maladies, leur classification par syndrome. Et puis une méthode d'examen qui permet aujourd'hui, à partir de questions, de l'observation, de la palpation, de l'auscultation, bien de prendre toutes les informations que l'on peut avoir du patient et de dresser un tableau clinique et à partir de là d'établir une stratégie de traitement, d'un principe de traitement avec des outils qui sont propres.
Alors, la médecine chinoise, vous disiez tout à l'heure, s'appuie sur la nature.
Oui.
Voilà. Une nature typiquement asiatique, je dirais, quand même.
Non.
Non, pas forcément. On peut utiliser n'importe quelle plante de la planète et qui puisse s'adapter à la médecine chinoise ou l'inverse.
Alors, quand je disais qu'il y avait une analogie entre l'écosystème naturel et l'écosystème humain, c'est plutôt sur le plan général. C'est-à-dire que finalement, il y a des éléments de la terre, des éléments du ciel, il y a des climats, il y a des saisons. Et finalement, ce que l'on retrouve dans la nature, dans les saisons, dans les climats, dans les énergies qui viennent du ciel, les énergies qui viennent de la terre, on les retrouve aussi chez l'humain. C'est-à-dire que cette analogie a permis notamment de classifier 9 types de maladies, de causes internes, de causes externes, et parmi lesquelles on va retrouver par exemple les climats. C'est-à-dire qu'une personne qui est affectée par des maladies qui peuvent venir de l'extérieur peut être affectée par du froid, par du chaud, par du vent, par de l'humidité, par du feu, par de la sécheresse. Donc vous voyez, c'est autant d'éléments qui, par analogie, peuvent ressembler à la nature. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque le terrain est sec, dans la nature, eh bien, il faut plutôt l'humidifier, l'arroser pour pouvoir le cultiver et qu'il soit en bonne énergie. Et ben, pour un patient, pour un homme, pour une femme, c'est un peu pareil. Et lorsque l'on a un froid, eh bien, il va plutôt falloir le chasser parce qu'à l'intérieur, on a 37 degrés et que l'équilibre, il peut être valable que si on maintient ces 37 degrés.
Par quel cheminement êtes-vous arrivé à devenir praticien de la médecine chinoise?
Jaya, tu veux que...
Oui, moi, c'est par passion, oui. J'ai fait une approche de la médecine chinoise. J'ai fait de l'accompagnement autour de moi, dans mes proches. Malheureusement, d'accompagnement en phase finale, hein, de maladies complexes et longues, avec beaucoup de souffrance. Et J'ai un autre regard aujourd'hui sur les maladies en général et sur la médecine occidentale. Et j'ai recherché un peu partout des médecines dites alternatives pour voir si éventuellement on ne pouvait pas traiter différemment, avoir d'autres approches qui soient plus humaines, entre guillemets, qui prend le patient dans toute son entité, ça veut dire, et son aspect physique, physiologique, et son aspect surtout mental, émotionnel. Voilà, ça me paraissait important. D'où l'intérêt pour moi de m'orienter dans cette... en tout cas, d'avoir fait le choix de m'orienter dans cette médecine chinoise.
Vous parliez de maladies longues. Est-ce que cette médecine permet de soulager justement la douleur ou la souffrance?
Oui, cette médecine permet de soulager les douleurs, hein, que ce soit des douleurs de maladies lourdes et assez profondes, mais aussi des douleurs de surface, hein, toutes simples, des douleurs musculaires, etc. Oui, cette maladie peut accompagner les douleurs.
La médecine chinoise, est-ce qu'elle a une grande institution sur la Terre? Est-ce qu'il y en existe une qui décide de ce qu'est la médecine chinoise? Comme nous, on a l'ordre des médecins.
Non. Cette tradition aujourd'hui, elle a des inspirations et des sources différentes, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Comment on pourrait dire? Alors, elle est reconnue dans l'Organisation mondiale de la santé, puisque dans les préconisations de cette organisation, il est demandé aux États de pouvoir introduire ces médecines traditionnelles, dont la médecine chinoise, pour les bienfaits qu'elle peut apporter. Donc cette reconnaissance-là est quand même importante. Et comme je vous le disais également en introduction, de plus en plus, la médecine occidentale se rend compte qu'elle peut être complémentaire. Et nous voyons dans les grands hôpitaux de France ou d'Europe, à Paris par exemple, à la Salpêtrière, eh bien des praticiens ou des personnes du corps médical qui se soignent, qui se forment à la médecine chinoise, intervenir pour des maladies graves comme le cancer, post-opération, post-chimio, mais pour accompagner justement, parce qu'on sait que bien souvent, les médicaments de choc tels que les chimiothérapies apportent des bienfaits, mais aussi apportent d'autres effets pervers dans le corps. Et donc, à ce moment-là, cette médecine chinoise est appropriée pour venir justement accompagner les traitements. Et de plus en plus d'initiatives au travers d'unions professionnelles. Alors, en France, en Europe, dans le monde, il y a quand même, pour répondre à votre question, des organisations mondiales, européennes, ou des unions professionnelles, comme en France, de praticiens de médecine chinoise. Et d'ailleurs, un prochain congrès va se tenir à Lyon, au mois d'octobre, où il y aura débat sur d'une certaine façon, cette reconnaissance légitime qui devrait se passer autour de cette médecine chinoise. Sur d'autres initiatives, des hôpitaux de province comme à Alès ont ouvert une unité spécifique où vont l'ouvrir en janvier 2018 de médecine de traditionnelle chinoise, donc en complémentarité là aussi. Et puis Barcelone va accueillir le premier hôpital de médecine chinoise d'Europe. Donc c'est une médecine qui se redécouvre, qui est ancestrale, mais qui se redécouvre et qui se redécouvre non pas comme alternatif, mais comme vraiment rentrant dans un cadre qui peut être complémentaire et qui peut apporter des bienfaits sur bien des points.
À l'heure actuelle, en France, la médecine chinoise n'est pas encore reconnue par la sécurité sociale, si ?
Non, il n'y a pas de reconnaissance de la sécurité sociale autre que sur la médecine occidentale. Donc c'est clair qu'il y a un peu de chemin à faire, mais il y a aussi du chemin à faire dans la pratique que nous avons apprise pour qu'elle puisse aussi se développer en complémentarité avec ce que nous connaissons ici en France et en Europe.
Et Alain Maurice, pardon, chez vous, quelle est cette conviction qui vous a poussé à pratiquer?
Alors, d'abord, j'ai pratiqué des arts martiaux. Et vous savez, cette médecine énergétique, au travers d'un art martial, c'est la base. Et d'ailleurs, l'art de base de l'énergie, c'est le Qigong aujourd'hui, qui est un des outils que nous proposons dans le cadre de notre activité professionnelle. Nous débutons sur 10. Et ce ressenti énergétique, lorsque vous mettez cette énergie en mouvement dans le corps, vous arrivez à ressentir des choses qui interrogent dans un premier temps. Donc ça a été le cas pour moi au travers de cette pratique d'arts martiaux. Et puis ensuite, je me suis intéressé à l'énergie, mais sous d'autres formes, sous la forme de ce qu'on peut connaître aujourd'hui au travers du magnétisme, au travers de l'énergie libre, etc. Et j'ai été amené à connaître dans ce cadre-là, eh bien, l'un des premiers dirigeants de l'Union professionnelle de médecine chinoise qui à l'époque m'a peut-être pas initié, mais m'a fait connaître davantage cette médecine et qui, d'une certaine façon, pour moi, arrivait à rassembler des éléments qu'il y avait en moi, quoi, et auxquels je croyais. Donc, par conviction, à un moment donné de ma vie, lorsque je me suis posé la question de savoir ce que je voulais continuer à faire, eh bien, tout naturellement, la santé apportait de l'aide aux personnes, c'est-à-dire contribuer à faire que leur organisme puisse réagir positivement avec cette énergie vitale qui, grâce à des outils, à des pratiques de cette médecine, peut permettre justement au corps de réagir, de mieux réagir, de mieux se défendre, de mieux lutter, eh bien, tout naturellement, ça s'est imposé. Et voilà pourquoi ce projet est né il y a 4-5 ans.
Vous parliez tout à l'heure de complémentarité avec la médecine traditionnelle, enfin, médecine officielle, je dirais, en France, et celle-ci. Quelles sont les avancées? Justement, vous parlez de la salpêtrière, mais est-ce que globalement en France, on peut aussi trouver d'autres attaches?
C'est-à-dire d'autres attaches?
Entre la médecine officielle et celle chinoise, parce que ça laisse imaginer que, vous parlez de complémentarité, c'est qu'il y aurait alors des carences dans la médecine officielle que pourrait compléter la médecine chinoise, c'est ça?
Alors, les carences, vous savez, il faut rester humble. Je crois que, dans quelle que soit la pratique que l'on a pour accompagner les gens sur le plan de la santé, il faut rester humble. Donc, il est évident que toutes les médecines au monde, toute notre somme de connaissances cumulées, bien, on voit bien, hein, ne suffit pas à rendre les gens bien portants et équilibré sur le plan physiologique ou émotionnel. Donc, il faut rester humble. Donc, ce n'est pas en termes de carence ou, ou réellement d'opposition, mais c'est plutôt des expériences qui commencent à se développer, pas seulement dans les hôpitaux. Il y a un certain nombre de centres aujourd'hui, communaux, intercommunaux, qui s'ouvrent avec une pluridisciplinarité des thérapeutes et avec justement tous les outils regroupés en un seul lieu pour pouvoir répondre à des situations et s'adapter finalement le mieux possible aux pathologies que peuvent avoir les patients qui y consultent. Donc ce n'est pas uniquement par le haut, par les hôpitaux parisiens, de Barcelone ou je ne sais quoi, que la médecine traditionnelle chinoise regagne, j'allais dire, du terrain en France ou en Europe. C'est aussi par des initiatives locales. Notamment, vous savez, en France, on a quand même un certain nombre de lieux de déserts médicaux où on a une pénurie dans le corps professionnel médical, de médecins, d'infirmiers. Voilà, donc du coup, dans ces lieux-là, parfois, on essaye de réfléchir à d'autres solutions et c'est à ce moment-là que on se rend compte que finalement, une pratique énergétique naturelle en prévention, mais aussi pour soigner ou pour accompagner le vieillissement sur des pathologies comme les rhumatismes ou autres, ça peut être extrêmement intéressant. Donc après, vous savez, tout dépend de l'ouverture des uns des autres. Il y a des personnes qui sont plus ou moins ouvertes à ce type de pratique. Mais ça ne tient pas lieu à un espace particulier, ça tient lieu simplement à l'espèce humaine, avec ses talents et ses peurs.
Quelle est la place de la parole entre le praticien et son patient?
Ah, c'est une bonne question. Le patient parle beaucoup. Plus que le praticien, du reste. Le praticien a un protocole, j'allais dire, entre guillemets, il y a un questionnaire, entre guillemets, qui se met en place pour avoir un minimum d'informations, quand même, hein, sur les pathologies que peuvent avoir les patients. Mais il y a surtout la possibilité aux patients de dire ce qui ne va pas chez lui. Hein. Tout à l'heure, Alain disait que la complémentarité, vous avez soulevé le sujet de la complémentarité entre la médecine occidentale et la médecine chinoise. complémentarité, oui, pour la simple et bonne raison qu'au jour d'aujourd'hui, les médecins ont un travail compliqué à faire, hein, déjà. Ils ont beaucoup, beaucoup de patients. Et malheureusement, ils ne peuvent pas passer trop de temps avec leurs patients. Hein. Parfois, c'est même très rapide. Alors, bon, ils font ce qu'ils peuvent, mais les patients, je crois, ont besoin aujourd'hui de plus de temps pour s'exprimer. Et puis, ils ont des choses à dire. Et je pense qu'on doit avoir un peu plus de temps à leur consacrer pour pouvoir faire un point après et trouver comment les aider à aller mieux. La différence entre la médecine chinoise et la médecine occidentale, si je puis me permettre, il n'y en a pas une meilleure que l'autre, hein, ni une moins bonne que l'autre. La médecine chinoise, c'est une médecine préventive. En Chine, on va chez le médecin en prévention pour ne pas être malade. Malheureusement, nous ici, en Europe et dans le reste du monde, on va chez le médecin quand on est vraiment malade. Et parfois, c'est compliqué quoi, de se soigner après. Et c'est long.
Alors, je ne sais pas si c'est une légende. J'avais cru comprendre qu'un médecin chinois percevait une somme pour que son malade reste en bonne santé et que plus son patient était malade et moins il percevait d'argent.
C'est
comme ça que ça se passait. D'ailleurs, il y a un extrait de film de La Crise qui a été un film de 92 où il y a un dialogue qui est quand même croustillant où effectivement, avant, c'est-à-dire, on vous parle d'avant l'ère chrétienne, les personnes allaient voir leur médecin chinois en Chine pour une ou deux fois par an pour prévenir les déséquilibres, pour essayer de rétablir une certaine harmonie et pour éviter justement que, grâce à cette harmonie, on tombe malade. Et donc là, à ce moment-là, les familles se déplaçaient au cabinet de médecine chinois et payaient. Mais lorsque la personne tombait malade, ça voulait dire à l'époque, hein, je vous parle de cette époque ancestrale, eh bien que le médecin n'avait pas forcément bien fait son boulot. Et donc c'était à ce moment-là le médecin qui se déplaçait chez le patient pour répondre aux besoins qu'il y avait. Parce qu'au bout du compte, contrairement à l'idée qu'on peut avoir ici, lorsqu'on voit des praticiens de toutes sortes qui ont énormément de patients dans leur salle d'attente, on considère que parfois c'est des bons médecins. En Chine, à l'époque, eh bien, plus on avait de malades, moins on était bon, parce qu'on n'arrivait pas à soigner les personnes préventivement. Bon, tout cela est bien dévolu. Hein, bien, il faut revenir à ce que votre question, elle était sur les origines, on va dire. Aujourd'hui, cette médecine, elle est certes, comme l'a dit Jalila, préventive, mais elle est aussi, elle rentre dans un protocole de soins. Et lorsque dans notre monde occidental, on se rend compte que finalement les désordres, les déséquilibres ont pour source près de 80% des déséquilibres émotionnels, ça veut dire que, comme le disait Jalila tout à l'heure, il faut passer un peu de temps avec son patient, parce que c'est pas du premier coup que les choses peuvent se révéler. Collecter les indices pour en faire ensuite une sorte de tableau, d'un pulse, qui va nous permettre d'aller à la cause. Et la cause est importante parce qu'on peut soigner la manifestation, on a une douleur, on va soigner la douleur, mais d'où vient cette douleur ? C'est ça qui est important. Donc du coup, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la médecine chinoise s'intéresse d'abord au patient, d'abord au malade, à ce qu'il est, à ce qu'il est devenu par ce qu'il a fait dans son environnement et autres, quoi. Donc voilà, ce qui est important, c'est de savoir ce qui s'est passé et qui a été la cause du déséquilibre et qui a entraîné la maladie. Donc cette cause, elle peut être émotionnelle, elle peut être aussi environnementale. Hein. Une personne qui, par exemple, travaille dans une chambre froide, parce que c'est son métier, il ne peut pas faire autrement, eh bien on peut être sûr que le froid, l'humidité va pénétrer et qu'il va être sujet à des gonflements, à des rhumatismes, à des choses comme ça. Donc c'est pour ça que savoir quelques éléments de l'environnement du patient, son histoire, des éléments émotionnels, parce qu'il y a un rapport entre les émotions et le fonctionnement des organes. Chaque organe est lié à une émotion. Par exemple, le foie est lié à l'émotion de la colère, du stress, de la colère refoulée. La tristesse est plutôt liée à l'organe du poumon, l'inquiétude. Le ressassement est plutôt lié à un dysfonctionnement de la rate, estomac, pancréas. La peur ou la frayeur, c'est plutôt lié à un dysfonctionnement du rein. D'ailleurs, le bon sens aujourd'hui de nos ancêtres disait, pardonnez-moi l'expression, il s'est pissé dessus, quoi. Parce que voilà, la peur a fait qu'à un moment donné, la gestion des liquides dans le corps. Donc, chaque émotion a son organe. Et pour nous, l'important, c'est justement d'aller repérer qu'est-ce qui a pu, à un moment donné, dysfonctionner. Est-ce que c'est un problème externe d'environnement? Est-ce que c'est un problème interne émotionnel? Est-ce que ça peut venir de l'alimentation? On a beaucoup aussi de sources d'outils au travers de l'alimentation, parce que il y a des alimentations riches qui sont parfois à bannir, il y a des alimentations froides qui sont parfois à bannir, hein, des fois des idées reçues sur des repas uniquement avec des crudités ou des salades, il y a parfois des éléments qui sont liés, qui peuvent être liés aussi à des facteurs externes de morsures, de piqûres, etc., ou des traumatismes, hein, comme on le disait tout à l'heure. Donc tout cela fait que on a besoin, pour revenir à votre question initiale, de prendre du temps avec le patient. D'ailleurs, la première consultation dure entre 3/4 et 1 heure. Ça nous permet de faire d'abord un premier bilan sur la santé, sur l'énergie, et ensuite de commencer un premier soin, donc d'une manière ou d'une autre. Donc du coup, le temps à passer avec le patient est important.
Donc le patient vient chez vous avec une douleur ou une souffrance et vous allez passer avec lui entre 3/4 et 1 heure pour essayer de cerner un peu ce qu'est sa vie, hein, et qui l'a amené à avoir cette souffrance, c'est ça?
Oui.
Et comment ça se passe par la suite alors?
Alors par la suite, par rapport au tableau que l'on aura dressé, au syndrome que l'on aura repéré, eh bien, on va établir un principe de traitement qui est simple. Hein. Enfin, le principe est simple. Après, y arriver avec les outils et en fonction de plusieurs éléments. Parce que si vous voulez, comme on n'est plus trop dans la prévention, même si on voudrait le rester beaucoup et qu'on préférait avoir des patients qui viennent nous voir pour rééquilibrer avant que les choses tournent mal, on va dire. Donc du coup, on arrive à avoir des cas qui sont des cas complexes et qui, où parfois les syndromes, les maladies se sont un peu enracinées. Donc on va établir avec lui un principe de traitement et on va choisir nos outils thérapeutiques. Donc les outils thérapeutiques qu'offre la médecine chinoise, hein, sont nombreux. Hein. Il y a l'acupuncture, on peut utiliser la moxibustion, des ventouses, on peut utiliser le gua sha, on peut utiliser le tuina, qui est un massage antidouleur. Voilà, on peut utiliser la pharmacopée, qui sont des combinaisons d'ingrédients, de plantes, de minéraux. On a aussi ajouté à cette panoplie qui est typiquement médecine traditionnelle chinoise dans notre cabinet, on y a ajouté aussi quelques outils qui permettent aussi de traiter un certain nombre de syndromes, qui sont la lampe infrarouge qui permet de chauffer des endroits à un moment donné qui sont importants, ou encore une cabine hammam ou sauna qui peuvent à un moment donné soit chasser du froid, soit ramener de l'humidité en fonction des pathologies, donc qui sont intégrées au protocole de soins. Donc voilà, donc on établit, lorsque le patient vient nous voir, ça peut, au bout d'une ou deux séances, ça peut aller très vite et l'équilibre peut être revenu et donc il peut se sentir mieux. Et puis en fonction de l'enracinement de la maladie, eh bien, on peut prévoir plusieurs séances, on peut prévoir d'accompagner par d'autres outils et c'est comme ça que les choses se passent.
En général, les patients qui viennent vous voir sont déjà passés par la médecine occidentale, ou alors il y en a qui font confiance surtout pour soigner un moindre mal, puisque c'est de la prévention, viennent vous voir directement?
Les deux. On a les deux cas. On a les cas de personnes qui ont été voir leur médecin et d'autres médecins, hein, selon le problème encourus. Et on a d'autres personnes, d'autres patients qui viennent parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de la médecine occidentale, en tout cas pas des médicaments, hein, entre guillemets. Et donc ils vont venir rechercher d'autres outils pour se soigner.
Donc vous n'utilisez aucunement du produit de synthèse, hein, de traitement de synthèse.
Non.
Voilà, c'est toute la différence.
Oui, c'est une grande différence, effectivement. Tout est naturel.
Et c'est ça qui intéresse surtout les personnes qui viennent voir une médecine traditionnelle chinoise.
Oui, parce que si vous voulez, on rencontre des personnes qui, parfois, ont un parcours médical complexe, long et avec des états qui ont été pris en compte, qui ont été soignés, hein, qui ont été guéris, et puis d'autres qui perdurent ou des effets pervers. Il faut dire que quand on regarde un petit peu les effets pervers de chacun des médicaments que l'on peut avoir aujourd'hui en médecine occidentale, ils sont nombreux. Et donc, à un moment donné, quand une personne prend 3, 4, 5, 6 médicaments par jour, parfois plus, comprenez bien que les réactions chimiques à l'intérieur du corps sont difficilement prévisibles. Et qu'à un moment donné, l'idée, ce n'est pas de remettre en cause l'ordonnance du médecin qui a fait son boulot et bien son boulot. C'est essayer de voir comment, par un accompagnement naturel, énergétique, on peut arriver à compléter et à faire en sorte que ces effets indésirables ou que les symptômes qui perdurent, parce que la maladie est enracinée, puissent être levés, chassés et que la personne puisse se sentir mieux.
Et puis, je voulais savoir, parce que vous parlez de l'organique, du fonctionnel, du psychique, est-ce qu'ils ont des proportions, ces trois dimensions ou aspects ont des proportions plutôt régulières ou alors ça varie en fonction de l'individu ?
Ça varie en fonction des individus. C'est jamais pareil. Chaque patient tous les patients sont différents. Chacun arrive avec son taux de problèmes avec eux, soit des problèmes physiques, soit des problèmes mentaux. On va avoir des pourcentages qui vont varier en fonction des uns et des autres. Donc, on travaille en conséquence après. Voilà, si vous voulez, on est comme des horlogers. On essaie de remettre l'horloge en route.
Et puis, il faut dire que... un problème psychologique peut dériver sur un problème physiologique, stomatologique, donc le contraire d'un un problème qui est purement interne, dû à l'alimentation grasse, dû donc à une prise de poids, etc., peut à un moment donné amener des problèmes émotionnels. Donc du coup, le tout est lié. Mais c'est vrai, comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans une société où le stress est important, où les émotions ont quand même une part importante dans la vie des gens, et où finalement il est rare de voir des personnes qui sont absentes de déséquilibre entre guillemets émotionnel, quoi, hein. Donc ça c'est un point qui vient souvent. Et puis comme le disait Jaïla, toute personne est unique, donc ça veut dire que avec son hérédité, avec son hygiène de vie, avec ce qu'il a fait de sa vie, avec son environnement de travail, familial. Donc du coup, les Chinois disent « on tombe toujours du côté où l'on penche ». La personne étant unique, chacun penche d'un côté, chacun a des maillons faibles, entre guillemets, dans sa vie, dans son parcours de vie. Donc l'idée, c'est en prévention eh bien, de rétablir la verticalité, l'équilibre, quoi, on va dire, et pour pouvoir permettre au corps de lutter contre ces difficultés qui sont dues justement à cet environnement-là, et pour éviter de tomber malade. Hein. Et y compris, on va dire, encore une fois, on accompagne les personnes à réagir par rapport à une perversité. D'ailleurs, les Chinois disent, en médecine chinoise, dans l'éducation des enfants, il faut que... On éduque les enfants pour qu'il faut toujours qu'ils aient un peu froid, un peu faim, un peu soif, pour justement habituer le corps à développer...
Qu'il soit un peu sale.
Un peu sale, voilà. pour habituer le corps à développer des énergies de défense. Et c'est peut-être la meilleure image pour expliquer ce que la médecine chinoise ou la pratique fait, c'est-à-dire accompagner la personne à réagir face à une attaque interne ou externe d'une perversité.
Comme la nature.
Comme la nature.
C'est ça.
Et je voulais savoir, vous vous soignez vous-même ou mutuellement ?
Oui, aussi. Oui, on se soigne mutuellement, on se pique mutuellement, on se traite mutuellement, on se fait nos petits tableaux, chacun de notre côté, oui. Et puis, oui, on se traite beaucoup.
Et vous êtes en bonne santé ?
Oui, je crois.
Oui, ça se voit. Voilà. Et vous pratiquez alors sur dit ou pas encore ?
Oui.
Oui, on a commencé.
Et donc, vous êtes installé où, là, actuellement ?
On est au 14 de Place Chevandier, Antonin Chevandier.
Voilà, la Place Saint-Marcel, sur dit, voilà.
Très bien. Eh bien, est-ce que vous avez cité, par exemple, tout à l'heure, la crise hein, de Colin Serrault,
oui.
Un extrait qui parle justement de la médecine préventive. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cet extrait ?
Ah ben, c'est typiquement les deux acteurs... qui, lors d'une conversation dans une brasserie, l'un explique à l'autre que finalement, voilà quoi, c'est pas quand on a soif qu'il faut se préoccuper de sa soif, c'est pas quand. Voilà, il fait des analogies d'ailleurs entre la civilisation et la façon de se comporter dans la société et le médecin chinois qui, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, eh bien, dans les années ancestrales qui ont vu la naissance de cette médecine chinoise, eh bien, où on allait voir seulement une ou deux fois par an le médecin chinois pour pouvoir justement, dans son cabinet, rééquilibrer, faire en sorte que tout ce qui était un peu faible chez la personne puisse être rétabli pour donner un coup de pouce à l'énergie vitale afin que la personne ne tombe pas malade. Et puis que lorsqu'elle tombait malade, c'était qu'à un moment donné, le médecin n'avait pas bien fait son job et donc c'est lui qui se déplaçait. C'est lui qui se déplaçait chez le patient. Donc voilà, mais ça encore une fois, c'était dans les débuts de la médecine chinoise. Aujourd'hui, bien sûr qu'en Chine, les choses ne se passent plus comme ça, évidemment.
J'avais vu un documentaire qui avait l'air assez ancien, où le médecin prenait le pouls de son patient et pouvait déterminer tout ce que le patient souffrait ou diagnostiquer la santé de son patient. Je ne sais plus combien, il y avait 9 points.
Mais c'est aussi vrai. En médecine chinoise, on a 28 pouls, c'est vous dire. 28 endroits où on peut prendre un pouls. Et 9 pouls principaux. Et il est vrai que lorsque nous prenons le pouls, les pouls radio, hein, au même titre que les médecins occidentaux, on va pouvoir, en fonction de la profondeur ou de l'emplacement de l'un des trois doigts que l'on pose, savoir quel est l'organe qui est en difficulté.
Et donc, c'est effectivement, lorsque on vous disait qu'il fallait du temps, c'est parce que, comme vous l'a dit Jaya tout à l'heure, il y a un certain nombre de questions que l'on va poser par rapport au motif de consultation, mais après, il va y avoir l'observation. L'observation de quoi ? L'observation de la couleur, du visage, des yeux, de la peau, de l'aspect du général du patient, des muscles. On va faire la palpation pour voir s'il y a des douleurs quelque part. Et la prise de pouls, comme l'observation de la langue. Lorsqu'on regarde la langue d'un patient, on arrive à être conforté ou confirmé dans un diagnostic qu'on est en train d'établir, dans une évaluation énergétique qu'on est en train d'établir, pour savoir quels sont les organes affectés, quelle est la nature
de l'affection.
Du syndrome. Est-ce que c'est de la chaleur ? Est-ce que c'est du froid ? Est-ce qu'il y a du cholestérol ? Alors, en Chine, ce n'est pas du cholestérol, on appelle ça du tan. Mais donc, est-ce qu'il y a des matières qui sont bloquantes, etc., des flux d'énergie qui bloquent ? Et donc, avec l'observation de la langue ou du pouls, avec les 28 façons de prendre le pouls et puis les 9 principaux, eh bien, on arrive à être conforté dans le tableau clinique de la personne. Et bien souvent, on se rend compte que la personne vient nous voir pour un motif de consultation qui est surtout la manifestation de ce qu'elle a au fond d'elle. Et que donc, dans une première séance, on va essayer de traiter les éléments de cette manifestation, mais qu'on va essayer de lui faire comprendre qu'il faut, derrière, aller un peu plus loin pour essayer d'enrayer la cause et que le phénomène ne se reproduise plus. On a aussi cette volonté, pour ce qui me concerne, de suivre plutôt la jante masculine et pour ce qui concerne Jalila, de suivre plutôt la jante féminine, puisque, comme vous l'avez compris, on rentre quand même dans l'intimité de la personne. Et donc, pour ce qui me concerne, c'est le 07 86 29 51 92.
Voilà, me concernant, c'est le 07 71 07 02 34.
Et vous n'avez pas de site internet ou de blog actuellement ?
Pas encore.
En cours.
C'est en cours de construction.
C'est en cours de construction.
En tout cas, Alain, Maurice et Jalila, Jalila, merci d'être venu nous parler
merci
de votre activité. Et puis, nous vous souhaitons une longue carrière. Hein. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a fait décider de, mis à part que vous êtes originaire, qu'est-ce qui vous a décidé de revenir ici sur le Diwa ?
Je suis sûr que vous avez la réponse en vous. Vous avez observé la nature ici, l'énergie qu'il y a lorsque Glandas tape sur les rocheuses. Lorsque le soleil tape sur les rocheuses du Glandas, on a à la fois une énergie ici qui est particulière et on n'est pas les seuls à s'en rendre compte. Je crois qu'il y a beaucoup de populations qui viennent ici pour ce climat, pour cette énergie. Pour la population qui y vit aussi. C'est une population qui est attachante, qui est ouverte aussi à ces pratiques-là. Et puis pour le cadre de vie, cette volonté, c'est venu à la croisée à un moment donné des chemins où on avait envie aussi de vivre autrement, de se ressourcer, de vivre autrement et de partager avec les autres quelque chose de différent.
Je voulais faire juste un parallèle par rapport au paysage ici. Est-ce que vous êtes allé à Genève, par exemple, au lac Léman ?
Oui.
Et j'avais lu une phrase de Marie Shelley qui disait que le lac Léman absorbait l'énergie des gens et que ça les rendait fatigués. Vous croyez que ça ?
Alors, l'eau a des pouvoirs, mais le lac Léman, je ne sais pas, mais l'humidité que dégage le lac Léman est certainement une humidité qui peut avoir des effets pathologiques derrière chez les gens.
De lourdeur. Tout à fait.
Vous voyez, parce que en médecine chinoise, on dit que l'humidité, finalement, emprisonne l'énergie, emprisonne la chaleur. Et donc, quelque part, quand dans le corps, on a un peu plus de taux d'humidité qu'il ne faudrait, eh bien, on se lève parfois fatigué, on est un peu diesel au démarrage. Et donc, c'est peut-être ça qu'elle a voulu décrire.
Alors oui, indirectement, on la rejoint.
Eh bien, merci Alain et merci Jalila.
Merci à vous.
Et bonne soirée.
Interview.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Interview.
Okay, the bird.